Et maintenant, mesdames et messieurs, il est temps de parler d'argent. Oui, on était lancé tout à l'heure par quelques remarques. Je me permets d'appeler les intervenants à cette autre table ronde. Monsieur David Hilaire, ancien conseiller d'État, vice-président de Sustainable Finance Geneva, François Le Forestier du cabinet Le Forestier, Claudio Morelli de Pictet Asset Management et Jean Laville, associé de Concert SA. David, tu peux prendre place. Monsieur Laville. Et qui manque-t-il ? Et Monsieur Le Forestier ? A-t-il la même pratique ? Il va pas tarder ? Il écoute peut-être, mais ensuite il dit, etc. Bien, messieurs, merci d'avoir accepté de participer à cet échange. Et on ne pouvait pas, dans le cadre de ces rencontres, ne pas parler d'argent, ne pas parler d'économie et d'économie durable. Il y a, et Genève, à cet égard, a donné un signal international il y a un certain nombre d'années pour montrer l'intérêt qu'il y avait de s'orienter de ce côté-là et que lorsqu'on parlait de développement durable, ce n'était pas simplement une démarche bucolique de doux rêveurs qui était loin des réalités économiques. Il est vrai qu'il y a 25 ans, ce sujet était appréhendé d'une autre manière. Mais il y a eu tout de même des gens, des spécialistes de la finance qui ont agi d'une certaine manière. Et Monsieur Morelli, merci pour Pictet d'être là ce matin. Et de bien vouloir, on va commencer de cette façon-là, nous dire quelle a été la motivation, quelle était la perception de Pictet, puisque vous avez été un des premiers, pour ne pas dire le premier, vous avez un fonds bois qui est extrêmement ancien, à agir dans cette direction et à comprendre que vous alliez pouvoir donner des réponses qui étaient à la fois environnementales et qui étaient des réponses également économiques de placement. Alors, si vous pouvez apporter le témoignage de Pictet, qui fait partie des sponsors de cette manifestation, je vous remercie encore. Monsieur Morelli.
Monsieur Guy, tout d'abord, merci pour cette invitation. Contrairement à certains de mes collègues qui m'ont précédé, bon, c'était facile de venir ici. Qu'est-ce qui m'a motivé ? C'est qu'en bon voisinage, je ne pouvais que traverser la route pour venir vous voir et partager un petit peu ce qu'on a sur le cœur au niveau de l'asset management, au niveau d'une banque privée comme l'est Pictet depuis 1805. Je vais peut-être me rattacher à ce qu'a dit Monsieur Duchamp en termes de... à la fin de son intervention, quand il parlait d'être convaincu. D'être convaincu, ça veut dire savoir ce qu'on veut faire. Et la motivation d'être ici aujourd'hui et de faire partie de cette discussion en termes de durabilité et de l'investissement, ben ça fait partie des mœurs et ça fait partie de la coutume de la maison Pictet. J'entends par là, il est difficile quand on se met à la place d'un épargnant, on se met à la place d'un investisseur institutionnel ou privé, quel qu'il soit, de pouvoir proposer des solutions d'investissement sans pour autant être convaincu. Vous parliez de déclic, monsieur Guy. C'est quelque chose de sérieux, l'environnement. Le bois, c'est sérieux. La durabilité de l'investissement, c'est quelque chose de sérieux. Et quand on va parler à un interlocuteur institutionnel ou privé, la première chose qu'on doit faire, c'est de se dire, mais qu'est-ce que nous avons fait à l'interne pour cela ? Et il y a 20 ans, je vais vous donner quelques exemples, et après je laisserai la parole à mes collègues. Il y a maintenant 20 ans, nous avons commencé à travailler et se dire, comment est-ce qu'on va pouvoir diminuer l'impact carbone de nos collaborateurs et de la maison en général ? À aujourd'hui, on a diminué de 40% l'impact CO2 de Pictet. Pictet aujourd'hui représente plus de 4000 collaborateurs dans le monde. Et nous sommes contents d'avoir pu montrer, en tout cas c'est un exemple, de comment une société, évidemment financière, peut, dans le quotidien, travailler aussi pour le bien de la planète. Et pour ce faire, il est encore plus important, quand on se retrouve en face à des investisseurs, de montrer l'exemple. C'est ce fameux déclic, ou être convaincu de ce qu'on fait.
Je vous remercie. Alors, nous allons enchaîner... maintenant, avec peut-être David Hilaire, par rapport, à part d'avoir été le grand argentier du canton de Genève, et s'en être plutôt bien sorti, maintenant, David, tu as des engagements, notamment dans Sustainable Finance Geneva, Et si tu, c'est possible d'apporter ce témoignage qui complète ce que M. Morelli vient de dire, et puis d'exprimer les sensibilités des caisses de pension qui aujourd'hui font des choix de placement différents avec des sensibilités, ce qui sont celles auxquelles on a fait allusion tout à l'heure. Monsieur Hilaire.
Alors, d'abord se rappeler que dès qu'on parle de finances durables, on n'est jamais dans le circuit court, hein, parce que par définition, c'est un monde globalisé. Pictet est une société genevoise d'origine, mais c'est une société mondiale hein, aujourd'hui. Et les investisseurs, toujours, depuis longtemps, ils ne sont pas forcément sur place. Donc c'est intéressant, c'est de savoir comment ils vont arriver au bon endroit, hein, finalement. La finance durable, c'était une utopie, un produit de niche. Bah, au moment où le Pictet a lancé ses premiers fonds, hein, c'était vraiment marginal. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que ce n'est pas marginal. C'est 20% en Europe, des placements, 10% en Suisse, mais avec un quasi-doublement l'année passée. Donc, les grands acteurs aujourd'hui ne sont plus des acteurs spécialisés. C'est les, évidemment, comment vous appelez, les ex-banques privées, en quelque sorte, hein. Donc, puisqu'elles ne sont plus dans... Elles sont devenues des SA genevoises, mais c'est aussi, en premier lieu, l'UBS. Donc, on est dans quelque chose de différent, et cette différence, elle est récente, je dirais 4-5 ans. On a eu une explosion. Donc, les gens constituent des équipes. Là-dessus, le problème principal, peut-être, c'est un peu le même que celui que vous avez évoqué, c'est la fiabilité des labels. Donc, est-ce que, quand vous êtes investisseur, vous comprenez, est-ce que la banque, ou surtout le personnel avec qui vous parlez, comprend la même chose, le mot durabilité? Puis comme en plus, on a plusieurs, on a eu jusqu'à présent des distinctions sur la base de l'exclusion, sur la base ESG, sur la base de l'impact, enfin tout ça, qui n'ont pas toujours clarifié, d'après les plus récentes études de perception des investisseurs, le problème. On a ça. Alors le bois, c'est certainement l'un des lieux où c'est le plus difficile pour un investisseur à savoir exactement ce qu'il fait s'il sort d'Amérique du Nord ou d'Europe. Or, c'est extrêmement important qu'il y ait de l'investissement durable en Asie, en particulier, c'est là où les menaces sont les plus fortes, et au Brésil, bien sûr, où tous les pays qui sont en qui ont la forêt d'Amazonie. Donc, on est dans une problématique qui est extrêmement globale, et on ne peut pas relier forcément la finance durable avec la chaîne de production, hein, soit d'exploitation, qui généralement, on parlerait plutôt de simple crédit commercial, en fait, hein, pas d'investissement à long terme. L'investissement à long terme, on le trouve sous plusieurs formes, soit des grandes exploitations, soit il y en a plusieurs, des fonds, notamment, qui, en France, qui rachètent des forêts pour faire un ensemble suffisamment grand, c'est le cas dans l'Ouest, hein, notamment. Et là, on peut acheter des parts d'une entreprise qui, elle-même, achète des forêts et qui a des scieurs, parfois, c'est arrivé aussi, pour le développer. Donc, vous voyez que c'est une problématique un peu différente avec des problèmes, ceux que vous avez évoqués. Qu'est-ce qu'on certifie de l'environnement, de l'efficacité économique, les deux à la fois, qui s'ajoutent aux problèmes spécifiques de la certification de la gestion des forêts, de la filière bois en général, et des assez grandes différences qu'on a d'une contrée à l'autre sur la valeur de ces certifications.
Merci. Merci, Monsieur Hilaire. Jean Laville, on a eu l'occasion de parler de cela assez longuement. Vous m'avez apporté certains éclairages. Je crois que vous pouvez prendre le relais directement après Monsieur Hilaire pour compléter ça, pour ensuite vous aurez des échanges entre vous.
Très bien, volontiers. Merci encore d'avoir organisé cela. Moi, j'aimerais plutôt revenir vers vous avec une idée, dans le sens que vous êtes tous des professionnels du bois, vous êtes tous committed au concept de la durabilité, mais quels sont les leviers que vous utilisez cela? Est-ce que vous êtes conscient, est-ce parmi vous est conscient que son épargne institutionnelle est gérée avec des critères de développement durable? Qui est-ce qu'ici a la certitude que sa caisse de pension applique ces critères de durabilité? Bon, Donc le problème, il est encore d'autant plus important pour la Suisse où la somme, si vous voulez, de notre épargne institutionnelle représente un multiple de notre salaire à la fin de notre vie. La somme totale, c'est à peu près 1,2 fois notre PIB. La chose en France est un peu moins, vu qu'ils ont le système de répartition, ça représente à peu près 0,25% de leur PIB. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose ici, un levier. Je pense que vous faites tous attention dans votre consommation de tous les jours. Mais il faut bien que votre grande épargne, elle est dans votre caisse de pension, premier et deuxième pilier. Et là, qu'est-ce que vous faites? Je vous renvoie à la question, vu votre première partie, sûrement pas grand-chose. Si on reprend maintenant ce que j'ai entendu, la Suisse est très très bien au niveau des forêts, ça croît. Et je vous rappelle qu'on a les mêmes problèmes de durabilité avec le problème du CO2, hein, si vous voulez. L'Office de l'environnement suisse a fait une analyse de contenu du portefeuille du CO2, du portefeuille de nos institutionnels, de nos fonds de pension. C'est-à-dire, en gros, quand vous payez une rente ici, elle est payée avec le dividende de Exxon, et Exxon a dû brûler du CO2 ou le vendre pour générer ce dividende. Et au final, chaque année, il y a autant de dividendes qui est brûlé pour générer les rendements financiers de nos caisses de pension que ce que nous brûlons comme CO2 dans notre vie de tous les jours. Donc vous voyez ce que je veux dire, si on peut être vertueux dans notre vie de tous les jours et qu'on n'est pas vertueux de l'autre côté, on a l'impression qu'on ne va pas avancer. Cette idée d'accélération, et c'est mon idée ici, c'est qu'en tant que citoyen, on peut agir au niveau de nos lois, bien sûr, on peut agir au niveau de notre profession, on peut agir au niveau de notre choix de consommation, mais si on veut accélérer un petit peu la réaction à ce changement climatique, etc., à la durabilité, il faut actionner tous les niveaux de nos leviers, et les caisses de pension en sont un. Et le travail que fait Concert, la boîte ici qui est dirigée par Angela De Wolf, au passage, désolé, elle n'a pas pu venir, donc elle n'a pas pu améliorer le quota de représentation féminine assez faible de la journée, d'ailleurs, mais bon, enfin, peut-être cette spécialisation du bois, c'est un peu la même chose dans la finance. Donc dire qu'on va essayer de redonner dans le système, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui détient l'argent. C'est l'asset owner, on appelle, le détenteur. Et le système financier, lui, est l'intermédiaire. Et la durabilité, c'est le résultat de tout ça. Dans cette idée qu'il y a maintenant de cette finance durable, ça se redevient à l'idée qu'est-ce qu'on peut utiliser comme moyen pour amener plus de durabilité, donc amener le secteur financier à bien écouter ce que veut le détenteur d'actifs et par rapport à ses objectifs de durabilité. Et là, par rapport à ça, on a ce qu'on appelle la politique de dialogue, c'est-à-dire que quand vous avez un actionnaire d'une entreprise, vous pouvez influencer cette entreprise. Donc par rapport à ce thème, moi, ça m'a beaucoup intéressé, le thème de la déforestation, et je m'y intéresse dans quelle mesure, si vous voulez, finalement, par nos actes, nous avons une très belle forêt ici en Suisse, qui est même en France, qui progresse, mais de par notre consommation et nos investissements, nous contribuons à une déforestation au niveau global. Elle n'est pas niable. Je veux dire que la Suisse importe 80% de son soja pour nourrir son bétail ici du Brésil. C'est difficile de nier qu'il n'y ait pas d'impact sur la déforestation, et c'est la même chose si on impacte du bœuf. Donc cette idée des actionnaires se sont réunis pour créer des valeurs, des concepts, et se sont unis pour essayer de faire levier. On n'est plus ici dans l'ancien investissement éthique où on ne veut pas se salir les doigts. Ouh là là, on ne veut pas aller d'armement, on ne veut pas, on vend. Ici, on a une autre notion proactive. Nous sommes investis dans ces entreprises et nous allons utiliser ce levier pour amener les entreprises à adopter des critères de développement durable. Et c'est ça qui est en train de se passer, entre autres, sur la déforestation, où nous avons maintenant des groupes de travail qui essaient de pousser les entreprises à travailler en disant « montrez-nous que dans votre filière, vous n'avez pas d'impact de déforestation ». On parle bien sûr pas de ce qu'il y a ici, on a fait allusion dans les pays tropicaux. Et si vous ne faites pas suffisamment de progrès, nous allons communiquer. Et c'était la première fois qu'en 2015, le fonds norvégien a exclu un certain nombre d'entreprises pour leur incapacité à satisfaire cette demande de montrer qu'ils géraient de manière durable leur forêt. Pour vous donner une ampleur du problème, parmi les 50 plus grandes entreprises au monde qui ont des forêts, qui représentent, si je de mémoire, à peu près 500 000 km², il y a à peu près 45 000 km² qui sont déclarés chez les entreprises, mais dont on n'a pas la localisation. Donc on ne sait même pas. Les entreprises déclarent des forêts, on ne peut même pas savoir où elles sont. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec des instruments comme Global Forest Watch, on peut très bien mesurer assez précisément l'évolution de la canopée sur une période, hein, par satellite, et on voit très bien les déforestations. Donc on ne peut même pas contrôler. Donc un des premiers engagements, c'est justement ce qu'on a appelé le Forest Disclosure Project, c'est de demander aux entreprises, donnez-nous des informations sur la manière dont vous gérez vos forêts. Et la même chose qu'on l'a fait ici, je l'ai lancé en 2006 en Suisse, de demander à toutes les entreprises aussi une stratégie climatique. Donc voilà ce qui est en train de se passer, mais pour cela, il faut bien qu'il y ait cette volonté des investisseurs de dire notre responsabilité, elle est d'utiliser cela aussi. On a aussi notre rôle de citoyen, on a notre rôle de professionnel, mais on a notre rôle d'investisseur, et c'est vraiment de la responsabilité, ce qu'on appelle le empowerment du détenteur d'actifs, de prendre sa responsabilité, de dire voilà, moi, si les marchés ne sont amoraux, moi j'en ai, et voilà ce que l'on fait. Et ce que l'on fait à Concert, c'est justement prendre les fonds de pension et les amener en plusieurs heures, dire, quelles sont vos valeurs à vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec votre argent? Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous êtes sensible à des problèmes climatiques? Est-ce que vous êtes sensible à des problèmes sociaux? Et après, vous dites, voilà où on veut aller, et après, la charte, elle est transmise au financier, et à ce moment-là, le financier, donc typiquement ce que fait Pictet, ben, vous fait des propositions. Maintenant, si vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Deforestation Free, c'est-à-dire vous assurer que ce fonds de placement ne contribue pas à la déforestation. Il y a un label, comme vous avez Carbon Fossil Free, Fossil Fuel Free, vous avez maintenant Deforestation Free Fund, et par exemple, deux fonds de Pictet se qualifient, environnement se qualifie là-dessus. Donc, il faut dire qu'on peut demander l'information, mais si on ne l'utilise pas, et si on n'utilise pas notre levier que sont les caisses de pension, que sont ces notions-là, typiquement Publica sous la pression a décidé de sortir du charbon, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres qui font ce travail. Donc voilà ce que je voulais dire, le message. Il y a du boulot, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains là-dedans, mais le levier, il faut accélérer en élargissant son cercle de pouvoir. Voilà.
Peut-être juste un point pour rebondir sur ce que vous disiez. Je pense qu'en fin de compte, quand on parle d'investissement durable, c'est une prise de conscience individuelle. C'est de se dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, je vais avoir peut-être bonne conscience en rentrant à la maison parce que ma caisse de pension ou peut-être mes épargnes ont été investies dans des investissements qui sont durables. Mais au-delà de la définition, parce qu'effectivement, il y a plein de sociétés qui travaillent dans la recherche, dans l'analytique, c'est de se dire, mais est-ce qu'effectivement mon argent est bien investi? Et j'ai deux réponses à ça. La première, c'est effectivement ce que vous disiez, c'est que derrière, on a le respect de l'investissement et de notre planète, et on fait attention où est-ce qu'on met cet argent. Mais surtout, on s'est rendu compte, et là, je prends mon chapeau d'ancien expert comptable, c'est la solidité des bilans des sociétés où on va investir. C'est que sur le moyen long terme, on s'est rendu compte, et l'analyse que nous avons fait en interne, puisqu'en fait, les analyses et les sociétés que nous choisissons dans nos fonds de placement, vous citiez deux fonds, je peux parler du fonds sur l'eau, le fonds sur le bois, le fonds sur, global sur l'environnement, c'est des structures qui nous permettent de choisir des sociétés qui sont innovatrices et qui font attention à ce que leur modèle d'affaires soit viable. Et pour être viable aujourd'hui, être durable dans les conseils d'administration futurs, ce ne sera pas, comme diraient nos amis anglais, un nice to have, ce sera un devoir, ce sera une obligation. Ça fera partie des statuts des sociétés. Donc au plus vite on arrive à identifier ces sociétés, au plus vite, on a la possibilité auprès des épargnants, institutionnels ou privés, de pouvoir avoir accès à ces sociétés qui sont responsables. C'est pour moi une chose importante. Et cette qualité de bilan sera pérennisée.
Oui, je voulais revenir brièvement sur le point des caisses de pension. Il y a quand même une partie, disons, du progrès de l'investissement durable en Suisse est liée aux caisses de pension, et notamment aux caisses de pension publique, à vrai dire, avec le regroupement de caisses de pension publique au niveau fédéral et d'un géant de la distribution, on ne va pas faire de la publicité, au niveau des caisses de pension, qui s'unissent en réalité pour réduire quelque peu les frais et confronter leurs expériences en termes de choix, de critères, de certifications qu'ils vont utiliser. Au niveau cantonal, ça vient un petit peu. Généralement, ça vient par palier. On commence par écrire, c'est ce qui s'est passé à Genève, une phrase quelque part dans un règlement, et puis ensuite, on fait une véritable politique. La, La première, à mon avis, qui a vraiment été bonne, c'est la ville de Genève, hein, avec les autres communes, la CAP. Faisons de la publicité, c'est Angela De Wolf qui avait servi de personne conseil, hein, sur ce dossier qui avait été piloté par Sandrine à l'époque. Donc, ça se répond. Ensuite, il y a quand même le contre-exemple absolu. Le contre-exemple absolu, c'est la Banque nationale suisse. C'est, si vous voulez investir durablement dans la destruction de la planète, le fonds de placement de la BNS suisse correspond exactement à ça. Alors, il y a un terme pour définir l'attitude des gens qui font ça. Ça commence par S et ça finit par Sartre. Hein. Je veux dire, c'est vraiment, je sais très bien que c'est mal, mais je le fais quand même parce que la loi ne m'impose pas de faire ce choix et que je pense que c'est le Conseil fédéral qui le fait. Maintenant, ce qui a été dit par la ville est tout à fait juste. Aujourd'hui, la finance durable a le trend et la concrétisation, c'est à la fois les gros investisseurs, ce que nous n'avons pas tous la chance d'être. Je pense que nous sommes assez peu à être des investisseurs individuels importants. Par contre, c'est vrai que nous sommes tous, quelque part, ou en tout cas la plupart d'entre nous, acteurs d'une caisse de pension. Il y a très souvent des structures duales, puisqu'on est en Suisse. Hein. Et donc, c'est extrêmement souhaitable que cette pression continue. Je viens peut-être à un dernier point concernant le rendement de la finance durable. On a maintenant des centaines, voire des milliers d'études. Et donc, on fait comparatif. Donc, on fait aujourd'hui ce qu'on appelle une étude sur les études. Donc, on prend, vous avez des groupes qui prennent l'ensemble des études, qui analysent leurs conclusions seulement. Et ce qui ressort de ça, c'est qu'en principe, vous avez à peu près les mêmes rendements avec le durable, mais avec moins de volatilité. Un rendement égal, volatilité moindre, donc risque moindre, hein, en d'autres termes. Et c'est la situation qui a prévalu au niveau mondial ces dernières années. Donc, il n'y a pas... Ensuite, je voulais quand même... J'ai vu une présentation du fonds Pictet Bois. C'est une des premières présentations que j'ai vues il y a une dizaine d'années. Et j'ai adoré cette image. L'avantage du bois, vous savez que le bois nord-américain, c'est beaucoup pour construire. Hein. Leurs exploitations construisent pour ça. Maintenant, il y a des années, comme vous le savez, avec la grande crise de l'immobilier, où ça s'arrête. Comme propriétaire, vous perdez peu. Pourquoi vous perdez peu? Parce que plus le bois, l'arbre, a un diamètre large, plus il est cher. Et donc, même si vous ne vendez pas une année, vous aurez moins de dividendes, mais vous aurez, par contre, une valeur qui n'a pas baissé. J'ai adoré cet argument et je regrette amèrement d'être pas un gros investisseur pour ne pas en profiter.
Merci. Il semble que M. Le Forestier est arrivé. Bonjour. Vous faites du marketing ? Vous ne comprenez pas ma remarque parce que vous n'avez pas entendu. C'est une méthode d'arriver plus tard pour ensuite relancer le débat. Mais on vous accueille avec plaisir. Si vous voulez bien venir nous rejoindre. Monsieur Le Forestier, vous êtes donc associé au cabinet qui porte votre nom. Vous gérez des fonds de pension et notamment vous intervenez dans celui du CERN qui fait un choix sur le développement durable et le bois en particulier. Je vous laisse nous l'expliquer.
Non, il y a erreur parce que je ne me...
Vous n'êtes pas Monsieur Le Forestier ?
Je suis Monsieur Le Forestier. Je suis un petit peu en retard, veuillez m'excuser. Et je ne m'occupe pas du CERN, des forêts du CERN, pas du tout.
Bah, écoutez, dites-nous de quoi vous vous occupez, mais je pense qu'on a fait quand même un bon choix en vous proposant de venir, d'autant plus que c'est M. Roger Bert qui a insisté pour qu'on le fasse ainsi. Alors, on vous écoute.
Prenez-moi. Vous avez parlé de quoi avant ?
Ah, ben c'est bien. Attendez, mais parlez directement à celui. Alors, dites ce que vous faites. On va s'adapter. Dites ce que vous faites, présentez-vous. Et après, je vous ferai des propositions.
D'accord.
On va s'en sortir.
Alors, je suis expert forestier à Besançon depuis plus de 40 ans. Je gère des forêts en France, des forêts privées, petites et grandes. Et j'ai été amené depuis fort longtemps à faire de la gestion durable, hein, puisque c'est le terme utilisé. Celui-là ?
Oui, parlez ça.
D'accord. Voilà. Voilà. Alors, après, je ne sais pas de quoi vous voulez que je parle.
Attendez, vous faites de la gestion forestière. Vous faites de la gestion forestière. Alors, allez encore un peu plus loin. Pour le compte de qui ?
La gestion forestière pour le compte de propriétaires privés. Puisqu'en France, il y a toute liberté pour la gestion des forêts privées par les propriétaires. Ce qui est différent en Suisse. Alors bon, je vais peut-être me lancer un petit peu dans le débat de la gestion durable.
Si vous gérez des forêts privées, ça signifie que économiquement vous arrivez à équilibrer cette gestion-là.
Heureusement.
C'est pas si évident que ça.
Très bien.
C'est pas si évident que ça, puisque on sait très bien qu'il y a de grands espaces forestiers qui ne sont pas gérés, où il n'y a pas de coupe, parce qu'économiquement, on ne s'en sort pas. Alors, autrement dit, maintenant, si vous pouvez simplement vous concentrer sur le fait comment économiquement peut-on gérer des forêts forestières, gérer des espaces forestiers privés.
Alors, comment éviter de ne pas gérer une forêt ? C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que en France, en dehors du climat méditerranéen, les zones méditerranéennes, où là, effectivement, on ne gère pas les forêts, on essaie de les empêcher de brûler. Et il y a des travaux qui sont faits de nettoyage, etc. Mais en dehors de cette zone méditerranéenne, en dehors des zones de montagne trop accidentées, qui sont inaccessibles, on peut en France gérer toutes les surfaces boisées, petites ou grandes, en bon état ou en mauvais état, sans qu'elle coûte au propriétaire, je précise bien, sans qu'elle coûte au propriétaire. Et l'objectif, évidemment, est de qu'il y ait un rapport plus ou moins important selon la nature de la forêt pour le propriétaire. Donc, en France, on ne veut pas entendre parler de forêt déficitaire, mais il y a quand même des forêts qui risquent un jour de le devenir. Il faut que je fasse attention à ce que je dise. Parce qu'il y a des forêts qui sont gérées à grande échelle en futaie régulière, dans du feuillu. Et ces forêts coûtent très cher. Premièrement, parce que les coûts de régénération sont très élevés. Et deuxièmement, parce que le rapport de la forêt est insuffisant. Donc, actuellement, beaucoup de ces forêts ont la chance d'avoir des recettes qui couvrent les dépenses. Mais si le mode de gestion dans ces forêts continue tel quel, ça va s'inverser. L'effet de ciseau fait que ça va s'inverser. Donc voilà, on en est loin. On est encore loin en France de forêts déficitaires. Et il faut tout faire pour que ça ne soit pas.
Installez-vous si vous voulez bien,
oui.
Et ces messieurs vont réagir. Monsieur Morelli, vous aviez déjà pris votre micro. Non, mais dans ce cas-là, votre voisin va réagir. Et ce n'est pas tout à fait innocent si je me tourne vers vous, parce que dans notre discussion que nous avions eue, vous aviez parlé d'une expérience personnelle, de quelques hectares dans le Jura,
exactement,
où la coupe n'est pas possible parce qu'économiquement, on ne s'en sort pas.
Exactement, c'est typiquement la situation qui a été évoquée, quoi. Une noirie qui dure depuis bien des années avec ma famille. La dernière coupe qui a été faite est à peu près il y a 40 ans. Et depuis, nous n'avons aucun signal comme quoi, nous ne recevons pas de signal comme quoi il y aurait une opportunité de faire une coupe qui soit valorisante. Et j'en discutais avant avec Jean Rosset. Effectivement, si j'ai de l'argent, je peux aller trouver mon banquier et puis il va s'occuper de ça. Mais si j'ai une forêt, je ne sais pas qui aller trouver pour qu'il peut-être fasse le travail qui a été fait de pouler, etc., de dire à qui je pourrais déléguer une gestion de la forêt, comme on le fait si je vais trouver mon banquier. Donc je n'ai pas trouvé ce genre de service qui permettrait finalement de laisser quelqu'un déléguer et peut-être lui gérer, trouver d'autres clients.
Voilà. Si j'ai bien compris, c'est ce que Monsieur le Forestier fait en France. Peut-être, je ne sais pas si vous pensez.
Voilà, c'est pour ça que ça ressemble pas mal, mais je ne sais pas si alors
vous
moi je rate.
Trouvé un client
en tout
et
cas,
vous une
si,
réponse à votre
je pense que c'est quelque chose que des propriétaires privés pourraient être intéressés à connaître là-bas dessus.
Sur ce sujet, excusez-moi. Ça marche. Que ce soit mon cabinet ou d'autres cabinets, ou même des techniciens forestiers indépendants, il y a en France suffisamment de monde, de compétents, pour gérer des forêts. Quelle surface fait votre forêt ?
Moins de 10 hectares.
Moins de 10 hectares, ce n'est pas un problème. On arrive à gérer des parcelles de 1 ou 2 hectares.
Et vous avez une expérience suisse ou française? J'ai juste un petit doute
uniquement,
sur le...
Uniquement française.
Voilà, très bien.
Uniquement française. On n'a pas le droit de mettre les pieds en Suisse.
Voilà. Alors je ne sais pas si effectivement, si on ouvre le débat, service, si quelqu'un a ce service.
Vous avez un service forestier en Suisse qui s'occupe des forêts des ressortissants suisses. Mais en France, vous êtes libre quand même de faire gérer par qui vous voulez.
Mais est-ce que c'est possible en France parce que les coûts de gestion de la forêt sont moindres qu'en Suisse?
Je n'ai pas la réponse à ça, moi.
Oui, c'est... Alors, en Suisse, on sait que les coûts d'exploitation sont à plus du double des coûts d'exploitation françaises. C'est-à-dire que là où on met, nous, 20 euros du mètre cube pour exploiter des arbres, abattage, débardage, en Suisse, on va mettre 50 francs suisses, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc on est au moins au double, c'est-à-dire que une partie de la vente du bois part en coût d'exploitation. Bon, et puis en Suisse, vous êtes des gens très soigneux. Il y a une qualité de travail importante qui fait que tous les services en Suisse sont plus élevés qu'en France.
Vous dites ça avec un sourire.
C'est un compliment. C'est
ah oui, compliment. Ah, écoutez, on va le prendre comme ça. Mais on va le prendre comme ça. Mais en même temps, Monsieur Hiller va prendre le relais. On met le doigt sur quelque chose de bien précis. De bien précis.
Écoutez, allez-y. C'est presque une question complémentaire à celle dont vous voulez la réponse, mais je pense qu'elle est importante. En parcourant la documentation un peu sur la France, hein, j'ai vu que maintenant, il y avait quand même un certain nombre de fonds d'investissement qui rachetaient des forêts. Pour avoir, j'imagine, un effet d'échelle avec des rendements très convenables, hein, d'ailleurs. Bon, c'est des fonds, donc c'est des sociétés luxembourgeoises, généralement. La question que je me suis posée en regardant ça, puisque ce n'est pas ma spécialité, évidemment, c'est du point de vue de la rationalité économique et du point de vue environnemental, est-ce que ces regroupements, elles ne sont pas l'une à côté de l'autre, hein, mais il y en a un certain nombre dans les régions, sont favorables pour l'avenir? Est-ce que ça fait partie de la résolution du problème que vous avez posé ou non? C'est la question que je me posais. Est-ce que ça comporte des inconvénients?
Alors, plus une forêt est grande à acheter, moins elle est chère à l'hectare. Si vous achetez une forêt de 1000 hectares, elle vaudra moins cher à l'hectare qu'une forêt de 200 hectares. Donc ça, c'est déjà un premier point sur lequel les investisseurs jouent. Ils achètent une grande forêt et comme il n'y a pas beaucoup d'acquéreurs pour des forêts qui valent 5 millions d'euros ou 10 millions d'euros, il y en a 2, 3, 4, 5. Il y a, en France, il y a un potentiel peut-être de 10 personnes capables d'acheter des forêts de ce prix-là. Bon, mais la concurrence n'est pas là, donc le prix est faible. Autre chose qui joue en faveur de ces grandes propriétés d'investisseurs, c'est que quand on vend du bois, plus le lot est important, plus le prix unitaire est élevé. Il vaut mieux vendre 2000 mètres cubes de chêne que 300. Le prix au mètre cube sera plus élevé. Il vaut mieux vendre 5000 ou 10 000 mètres cubes de Douglas que 300 mètres cubes de Douglas. Donc ça encore, ça permet de faire, pour des questions d'échelle, de faire des plus-values importantes. Et pareil, quand il s'agit de planter, si je demande à faire des plantations qui sont sur plus 10 hectares ou plus, ça coûtera moins cher que si je bricole à faire des plantations sur un hectare ou un demi-hectare, etc. Donc il y a une rationalité dans tout ça qui est une question d'échelle. Il y a d'autres rationalités, mais ça, c'en est une. Alors, vous avez des...
Non, peut-être moi, je voulais rajouter, parce que le titre, c'est quand même investissement durable. Et quand on vous écoute et on vous entend... On comprend aussi la complexité et la difficulté dans la gestion d'investissements privés. Et je pense que ça rejoint un petit peu notre monde, c'est que tout un chacun, vous parliez tout à l'heure de notre niveau d'épargne, bah, des fois, on ne peut pas non plus avoir accès à acheter une forêt, même si j'aime bien le faire, mais je ne peux justement pas pour une question de capacité. Et l'avantage de ces véhicules d'investissement, contrairement à des investissements privés, ce que les Anglais appellent de private equity, l'accès sur ces fonds de placement qui sont de droit luxembourgeois vous offre, au-delà des dynamiques fiscales européennes, mais vous offre aussi la possibilité d'avoir un accès qui est beaucoup plus directe et plus facile, sans avoir un montant initial bien défini ou important pour un épargnant en fonction de sa réalité et sa surface financière. Ça, c'est aussi important parce qu'on se rend compte de la technicité et de la difficulté de pouvoir accéder justement à l'achat privé d'une forêt. En sachant que les véhicules d'investissement ne sont pas forcément que concentrés sur les sociétés cotées en bourse qui exploitent des forêts, mais aussi de ce qui est lié à la transformation du bois. On en a un tout petit peu parlé aussi précédemment dans cette conférence. Aujourd'hui, on essaie de démystifier ou de se désintoxiquer, permettez-moi l'expression, du plastique. Et je pense que là, le bois a toute son importance. Et de trouver des sociétés qui, justement, investissent dans ce domaine est encore plus important pour l'épargnant.
Alors, un petit mot quand même sur le marché des forêts. Il y a eu en 1973 une crise du pétrole. Et aussitôt derrière, le prix du chêne en France a doublé, puis a quadruplé. Tout d'un coup, les forêts sont devenues à cette époque-là, dans les années 75-80, un placement vert. C'est-à-dire que le rendement des forêts, tout d'un coup, on commençait à le remarquer parce que le prix des bois avait nettement augmenté. Et en France, en plus, il y a une fiscalité qui est assez avantageuse pour le propriétaire forestier. D'où de nombreux institutionnels, à l'époque, se sont lancés dans des acquisitions de forêts en revendant des parts à leurs clients, etc. Ou pas seulement ça, alors il y a les banques, les caisses de retraite, les assureurs ont acheté de la forêt. Et ils ont acheté pas mal de forêts. Et il y a aussi beaucoup la Caisse des dépôts et consignations en France, hein, qui a monté une société forestière pour ça. Donc il y a eu à cette époque-là quand même pas mal de forêts achetées. Et ça a dopé le marché des forêts à cette époque-là. Donc ça, il faut bien dire que les forêts des institutionnels ont été achetées au moment le plus fort. Et que 20 ans après, quand ils se sont rendus compte que la rentabilité des forêts n'était plus la même, qu'elle avait baissé, surtout quand on faisait le rapport entre le bénéfice et le capital qui, lui, avait baissé, parce que quand on achète au plus fort, on est à peu près sûr que derrière, le capital va baisser. Donc, le rendement de la forêt était moins intéressant, ce qui fait qu'il y a eu un désamour de la forêt des institutionnels et qui ont revendu un certain nombre de forêts, qui en ont même revendu beaucoup. Et il se trouve que depuis quelques années, depuis 10 ou 15 ans, le prix de la forêt a reconnu une hausse importante, très importante. Pour vous donner une idée, quand on estime une forêt, on estime le sol et le peuplement, et par certaines méthodes, et avant l'an 2000, on avait tendance à appliquer une décote pour ajuster le prix de le montant de ce qu'on avait trouvé au prix du marché. Le marché est fluctuant par rapport aux qualités même d'une forêt. Bon. Et donc, on faisait une décote qui pouvait être de 20-25%. Aujourd'hui, on fait une surcote de 20%. C'est-à-dire que les forêts en France ont retrouvé des investisseurs pour des questions fiscales et économiques. Les placements bancaires et autres dans notre pays sont insuffisants pour rémunérer sérieusement un apporteur de capitaux. Donc en forêt, il y a quand même une rentabilité qui est, je vais donner des chiffres, 2, 3, 4% selon le type de forêt, selon la façon de les gérer. 2, 3, 4%, ça peut même être plus dans certains cas. Bon, mais ça accompagné d'une fiscalité favorable, eh bien aujourd'hui, la forêt n'a pas beaucoup de concurrents en matière de placement. Simplement, donc on a vu dans les années 75-80 les forêts qui s'étaient vendues abondamment, puis revendues derrière. Simplement, il faut savoir qu'actuellement, nous sommes dans une période de marché très élevé de la forêt. Il faut le savoir.
Et je pense, si je peux rajouter à cela, ce qui est fondamentalement différent aussi par rapport au début des années 70, vous parliez, c'était un effet bien ponctuel lié au prix du pétrole. Aujourd'hui, je dirais le lien entre justement un substitut au niveau énergétique ou d'investissement par rapport à un investissement dans le monde du pétrole est fondamentalement différent aujourd'hui. Je veux dire, l'acceptation de biens de substitution durables. Alors, le bois en est un, mais on pourrait parler de l'eau, on pourrait parler d'autres énergies, d'autres ressources, sont quelque chose de concret. Et je pense qu'en termes de diversification, ça a tout son sens. Donc, je partage tout à fait votre avis, monsieur Lavigne.
Non, mais écoutez, je vais prendre note des conseils qui sont donnés là et aller retrouver mes frères pour voir si on trouve une solution.
Oui, parce que je reviens au problème suisse. Il semble que ce soit possible en France de gérer économiquement un espace forestier privé. Et en Suisse, ça ne l'est pas économiquement. C'est si, extrêmement.
Il y a un grand massif en Suisse.
La sono n'est pas bonne.
Il y a un grand massif en Suisse qui est rentable. C'est la forêt de Couvet, dans le Jura.
Écoutez, alors, où est-il? Non, mais c'est quelque chose. Vous aurez tous. S'il y a une chose que vous retiendrez de ces rencontres, la forêt de Couvet. Et on va organiser un déplacement groupé, parce qu'on en parle, mais on ne l'a pas vu. Alors, continuez, la forêt de Couvet, elle a quelle autre vertu encore?
Alors, la forêt de Couvet, parce qu'elle est traitée en jardinage. Ce n'est pas une forêt. Alors, vous savez tous, il y a deux types de forêts. La forêt régulière, c'est-à-dire on coupe tout sur une parcelle et on replante tout avec une seule essence. Hein, ça, c'est la forêt régulière, parce que tout ça, ça va pousser, ça va monter. Et puis, la forêt jardinée, c'est une forêt où, dans une même parcelle, on a des arbres de tous âges, toute hauteur, et différentes essences. Et donc, cette forêt qui est plus écologique que l'autre a des vertus économiques très développées. On pourrait croire que écologie et économie ne vont pas ensemble, mais en forêt, c'est pas du tout ça. En forêt, une forêt écologique rapporte bien plus qu'une forêt. Qu'une futaie régulière. Alors, je peux choquer certains, parce que, surtout en France, nous, on a des gens qui sont très, comment dire, qui restent braqués sur la futaie régulière. Bon, l'ONF, dans toutes les forêts publiques, ils ont beaucoup de mal à se détacher de la futaie régulière. C'est en train, peut-être, de changer un peu, mais ils ont beaucoup de mal. Dans le privé, on est plus souple, mais à condition d'avoir une vision, comme on dit, un petit peu holistique de la forêt, que la forêt ne soit pas simplement le support physico-chimique de nos productions ligneuses, je répète, support physico-chimique de nos productions ligneuses. On a en France un très bel exemple comme ça, les 1 200 000 hectares de pins maritimes dans les Landes. C'est extraordinaire. Bon, simplement, cette forêt qui est de la forêt régulière dans les pins maritimes, dans les Landes de Gascogne, cette forêt ne résiste pas aux tempêtes. Et elle a essuyé deux tempêtes, 99 et puis 2007. Hein, et à chaque fois, les propriétaires replantent. Ils ont des aides, mais ils replantent. Et ils replantent quoi? Ben, du pin maritime, bien sûr. Bon, autre exemple de futaie régulière, c'est, et là on peut en parler parce que c'est très d'actualité, c'est toutes les plantations d'épicéas qui ont été faites, avec que de l'épicéa, qui ont été faites en général en dessous de 900 mètres d'altitude, il y en a beaucoup. Je ne parle pas des forêts purement montagnardes, hein, mais ces plantations qui sont sombres une fois qu'elles ont bien poussé. Et cette essence, l'épicéa, n'est pas tout à fait à sa place en dessous de 900 mètres d'altitude. Et on le constate aujourd'hui, c'est que dans le nord-est de la France, il y a des plantations entières d'épicéas qui sont en train de sécher ou attaquées par les insectes. Et en Allemagne, c'est pareil. En Belgique, c'est pareil. Parce que nos voisins allemands, depuis fort longtemps, ont planté de l'épicéa dans le domaine des plaines et collines. Mais quand les Allemands font quelque chose, c'est du sérieux. Donc au 19e siècle et au 20e siècle, ils ont planté des grandes surfaces en épicéa. Ils ont déjà eu dans le passé d'énormes dégâts
d'insectes ou de chablis, de vent dans leur forêt d'épicéa. Et ils essaient de s'orienter autrement, bien sûr. Mais là, actuellement, on parle, pour tous ces épicéas qui sèchent en Allemagne, Belgique, France, plus de 30 millions de mètres cubes. Plus de 30 millions de mètres cubes. C'est-à-dire que cette forêt artificielle ne plaît pas à la nature. Elle plaît à l'homme, elle plaît aux industriels, parce que les industriels vont trouver dans ces forêts-là des produits homogènes en dimension, qualité, etc. Donc ça, ça correspond bien au désir des industriels équipés de sylvicanthère. Mais la nature n'aime pas l'homogénéité. Je vais vous donner un autre exemple qui est un peu surprenant. Alors on comprend que avec de l'épicéa, qui est une essence finalement relativement fragile, hein, il y a pas mal de problèmes, on comprend qu'il y ait des dégâts. Pas maritime, bien sûr, c'est une essence qui est fragile. Mais je vais vous citer le cas du hêtre. Vous allez me dire, comment est-ce possible qu'avec le hêtre, il y ait des problèmes? Eh bien, quand j'étais étudiant ingénieur forestier, on est allé faire une tournée en Normandie, qui est ma région d'origine, d'ailleurs. Et en Normandie, il y a un climat et des sols tout à fait favorables au hêtre. Il y a une humidité atmosphérique et une nébulosité qui font pousser les hêtres. Et là-bas, on a de magnifiques hêtraies qu'on appelle des forêts cathédrales, tellement les fûts sont hauts, longs, etc. Et il y a une forêt qui s'appelle la forêt de Lyons. Lyons est un village pas très loin de Rouen. Lyons, et il y a une forêt de 7000 hectares qui est en couronne autour du village. C'est assez amusant. Et dans le passé, il y avait dans ces forêts-là du chêne et du hêtre. Et les forestiers ont éliminé le chêne et gardé le hêtre, d'où les très belles forêts. Simplement, la nature n'a pas aimé. Une minuscule petite bestiole qu'on appelle la cochenille est arrivée, elle est grosse comme une tête d'épingle. Elle a une couche cireuse blanche sur le dos et on voit des petits points blancs parce que l'insecte vient planter son rostre dans les micro-fissures de l'écorce, vous imaginez un peu. Et puis là, il commence à pomper, comme Échadoc. Il pompe, mais ils arrivent et ils sont des centaines de milliers sur l'arbre. L'arbre change de couleur, d'ailleurs. Il était gris, mais avec toutes ces bestioles-là, il devient blanc. Si vous passez la main dessus, vous vous rendez compte. Et puis, une fois qu'ils ont bien pompé, le hêtre est affaibli. Et un champignon arrive, un champignon noir, et à ce moment-là, c'est la mort du hêtre. Mais il faut savoir que quand on a visité cette forêt, sur 7000 hectares, ils coupaient tous les ans 23 000 mètres cubes de hêtres malades. 23 000 mètres cubes, c'est-à-dire la possibilité de la forêt. Ils coupaient que ça. Donc depuis, ils ont révisé un peu leur point de vue, mais pour dire qu'une forêt pure de hêtres ne plaît pas à la nature. La nature, c'est le vent, la neige, parfois le verglas, c'est les sécheresses, c'est les insectes, les maladies. Un milieu que l'on veut trop homogène en forêt sera la proie de tous ces éléments-là. Donc c'est pour ça que, pour en revenir à la rentabilité des forêts, si on fait une forêt trop homogène, on prend des risques. Alors, on peut avoir la chance de passer à travers les mailles, mais on prend quand même des risques. Mais si on veut faire une forêt plus jardinée, forêt irrégulière, alors là, on diminue les risques de façon très importante. Alors, non seulement on diminue les risques, mais en plus, les régénérations en futaie irrégulière coûtent beaucoup moins cher parce qu'on utilise les processus de la nature, beaucoup moins cher qu'en futaie régulière. Et par ailleurs, la matière elle-même est bien mieux valorisée parce que, je vais vous donner un exemple, en futaie jardinée de résineux, sapin épicéa, notamment à Couvée, quand on fait une coupe, la proportion du volume en gros bois, c'est-à-dire de bois qui font 50 de diamètre et plus, est d'au moins 80%. 80-90%. Il y a peut-être 1% pour les petits bois qui font 15-20-25, 1-2%. Le reste, c'est les bois moyens. Mais c'est-à-dire que la production d'une forêt est valorisée en gros bois qui obtient le prix fort. Et grâce à ça, on a des prix globalement sur une forêt bien meilleurs, puisque si vous faites de la futaie régulière, vous aurez au plus 50% du volume récolté qui sera en gros bois, au plus. Mais vous aurez fait des éclaircies dans les petits bois, dans les bois moyens avant, à des prix relativement bas. Donc, si on veut parler de rentabilité, c'est pas simplement combien coûtent les exploitations, etc., mais c'est la façon dont est gérée la forêt. C'est quelle approche a-t-on de la forêt ? Est-ce qu'on a une approche de type industriel ou est-ce qu'on a une approche de type écologique ? C'est un choix. C'est souvent personnel, ça, c'est individuel. Mais maintenant, on a beaucoup d'arguments rationnels pour montrer à ceux qui ne sont pas convaincus qu'ils auraient intérêt à faire de la futaie irrégulière et de la futaie jardinée. Donc ça c'est important parce que il y a 30 ans, on ne discutait pas comme ça des mêmes choses. Aujourd'hui, on peut affirmer avec certitude beaucoup de choses.
Merci beaucoup. Et il était important que vous arriviez. Et les prestations étaient très complémentaires de vous quatre, mais votre message est une certaine conclusion momentanée, à savoir que, prise d'une certaine manière, l'exploitation forestière peut économiquement atteindre l'objectif d'équilibre, au minimum.
Bénéfice.
De bénéfice, même. Et ce n'est pas un gros mot. De bénéfice. C'est majeur comme réflexion. C'est majeur. Et j'ai dit à plusieurs reprises déjà depuis ce matin que ces rencontres, c'est un point de départ. Nous mobilisons, nous nous réunissons pour passer des messages extrêmement forts avec des réponses, pas simplement, encore une fois, pour dire ce qui va bien ou bien se plaindre de ce qui ne va pas, mais d'avoir des réponses. Et ce que vous venez de préciser, d'ailleurs par rapport à la situation de la France, parce que si sur le plan économique en Suisse, on n'arrive pas à cette gestion équilibrée, il y a de très nombreux espaces en France, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas précisément, on n'appréhende pas le sujet par ce bout-là. C'est donc dire que vous terminez avec un message qui est optimiste, un message d'entrepreneur qui a confiance précisément à la capacité humaine de s'adapter à certaines situations. Et les uns et les autres, vous avez rappelé que la nature s'impose à un moment donné, précisément, une recherche de rendement optimal, en réalité, se retourne contre ceux qui se sont engagés dans cette direction-là. En tous les cas, ce n'est pas eux qui apportent quelque chose pour la planète. Monsieur Hiller a passé un scoop, c'est-à-dire vous a donné un conseil. Si vous voulez faire des investissements pour la fin de la planète, donc FIN, vous orientez vers la Banque nationale suisse. Si les journalistes dans la salle seront ravis de reprendre ça, parce que ça parle, mais après ça nous permet de parler autre chose. Cher ami, je vois qu'on ne change pas. Et voilà. Donc, et puis, maintenant, Monsieur Morelli, il y a eu des moments où il a dit, mais tiens, j'aurais dû investir à tel moment, parce que chez Pictet, on n'achète pas au moment où c'est le plus cher, c'est bien sûr. Mais après, ça redescend et ça remonte. Le tout, c'est d'être assez prompt pour réagir au bon moment. Et si la banque a ce succès-là, c'est précisément parce que vous ne vous êtes pas trompé. Et merci de vos témoignages, parce qu'en plus de vos activités professionnelles, il se trouve que vous êtes propriétaire forestier et que vous avez une expérience sur le terrain.
Puis-je encore rajouter un mot en disant que, quand même, ce qui a été dit, on ne sauvera pas nos forêts suisses si on ne sauve pas les forêts tropicales. Et par rapport à ça, il y avait le témoignage de M. Hervé, le sénateur. Il a soutenu cette initiative qu'on a lancée dans mon village à côté de Andilly, de jumeler la forêt d'Andilly, donc qui est ceux qui connaissent les médiévales et le maire incroyable Vincent Humbert, avec une forêt d'Amazonie, d'un peuple souroui, pour lier, que donner cette idée que nos forêts sont interconnectées et on aura du mal à sauver l'une si on ne sauve pas l'autre. Et vous savez ce qui se passe au précis.